gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
D'habitude, j'écoute les bandes continues à cette heure-ci. Ils sont revenus, la causerie, et maintenant, je vais être obligé de les écouter. Bonsoir à toutes et à tous. On est de retour sur Radio Canut et on est content d'être là avec, à la technique, Clara.
Bonsoir.
Dans les studios Jean-Yves.
Bonsoir, et Fab, donc.
Bonsoir. Et oui, parce qu'on vous a abandonné pendant un mois. Et on ne s'en excuse pas vraiment. Mais on comprend que c'était long, parce que c'est rare qu'on parte aussi longtemps. Mais voilà, on est de retour. On espère que vous allez toutes et tous bien. Ou du moins, du mieux que vous pouvez, parce que voilà, c'est pas toujours facile. Et on va démarrer cette émission. Alors, on vous rappelle, hein, pour ceux qui débarqueraient, genre, c'est la rentrée. C'est la rentrée des radios. Tout ça, vous voyez, hein, Clara, tu connais la rentrée des radios toi aussi,
oui,
parce que c'est le moment où on annonce les nouvelles équipes, tout ça. Bon, bah là, à la causerie, il n'y a pas de mercato,
non.
Voilà, donc pour l'instant, hein, mais vous pouvez nous rejoindre, hein, si vous avez envie. Et donc voilà, et donc du coup, si vous êtes débarqué, vous dites, mais c'est quoi cette émission? Alors, c'est une émission qui parle de choses très sérieuses, pas toujours avec un ton très sérieux, mais par contre, ben c'est pas une émission festive,
non.
Voilà. Donc, sachez-le. Quand même, c'est un peu l'émission qui vous fout le bourdon le dimanche soir, quoi. C'est pas vraiment le but.
C'est vendeur. Hein.
Voilà, non, mais je plaisante.
C'est quand même pas une émission dépressive.
Non, on n'est pas dépressif.
Pas du tout.
On est des grands optimistes. On aime bien quand même parler de la société et en parler aussi parfois en rigolant, parce qu'il faut aussi en rire, même si. Et on essaye d'aborder des sujets sérieux au travers de chroniques ou d'invités. Voilà, vous savez ce qu'est la causerie. Et donc, eh ben, Jean-Yves,
c'est à moi donc.
C'est à toi. Et toi, t'avais envie de nous reparler de cette période passé là, pas très ancienne.
Tout à fait. Il ne vous aura pas échappé, hein, à moins de n'avoir ni télé, ni radio, ni internet, en quelque sorte d'être un ermite, hein, ou une ermite. Eh ben, que nous avons eu, hein, des mois de juillet et août très sportifs et très patriotiques. Et oui, c'était les Jeux Olympiques. Ouais, la ferveur est incroyable. Et les Jeux Paralympiques approchent à grands pas, ne vous en souciez pas. Alors, tout avait commencé, hein, avant ces mêmes JO, hein, que ce soit l'enthousiasme sportif teinté de patriotisme, ou à l'inverse, hein, de critiques contre les JO et tout ce que ça induit. Et justement, bien avant les JO, hein, beaucoup de choses n'allaient pas. Je vais vous en citer quand même quelques-unes. Hein. Par exemple, la destruction en partie du jardin ouvrier de Vertu à Aubervilliers. La construction d'un échangeur autoroutier près d'une école. Mais qu'on se rassure, c'était une école plutôt de gens pas très riches, quoi. Je veux dire, c'était pas dans le 16e arrondissement.
Ah, tu sais, c'était pas devant Stanislas.
Non, c'était
non.
Ni à Neuilly. mais aussi l'expulsion, hein, de milliers de personnes, hein, de squats, de bidonvilles, avec des personnes sans papiers, des sans domicile et des pauvres, en fait. Mais aussi la mise en place, hein, de systèmes de surveillance avec reconnaissance faciale.
Oui, le truc qui était censé ne pas arriver.
Oui, c'est ça.
Mais qui est arrivé.
Oui, mais là, c'est exceptionnel. Faites-leur confiance.
Non, parce que la loi, elle n'est pas temporiste. Donc,
ah,
il n'y a,
ouais,
a pas d'arrêt. Hein,
donc. Ah ouais, bah,
et en plus, c'était fait par un ministre démissionnaire.
Ah oui, c'est ça. Ce nouveau statut que personne ne comprend.
On ne sait pas.
Oui, c'est ça.
Est-ce que la loi est démissionnaire aussi? Du coup, on ne sait pas trop.
Une fois qu'ils se barrent, tout part avec eux? Moi, je ne crois pas.
Non, je ne crois pas, ouais.
Non. Aussi, un budget, hein, de plusieurs milliards, dont les prévisions ont été allègrement dépassées. Soyez ravis. Construction aussi, hein, d'habitations sur le dos de travailleurs. dont nombre de sans-papiers dans le bâtiment, c'est assez connu, hein, n'est-ce pas ? Qu'énormément de personnes pouvaient attendre en Seine-Saint-Denis, hein, des bâtiments, des maisons, enfin des habitations, quoi. Mais qui ne seront, hein, on le sait d'avance, pas pour elles et eux, bah parce qu'en fait, tout ça, ça ressemble plus à une gentrification qu'autre chose. Tu voulais rajouter un truc ?
Oui, juste pas oublier aussi les morts sur les chantiers, oui, des JO. Oui. Il y en a eu quand même plusieurs, pas mal. Et on les a un peu mis sous le tapis quand même.
Non, ça ressemble pas à la France, ça.
Voilà.
Tu rigoles. On peut rajouter aussi, hein, la mise en cage de Paris, parce que vraiment, les images qu'on pouvait en voir, ça ressemblait presque à un zoo, quand même. C'était vraiment particulier.
Alors, moi, j'ai vu plus que les images. J'étais sur place.
Ah, t'as de la chance.
Une semaine avant, pas pendant les JO, juste une semaine avant la cérémonie d'ouverture. Et comment vous expliquer que d'un seul coup, j'ai eu l'impression que Paris, c'était un peu Disneyland? C'est-à-dire avec des trottoirs réservés à ceux qui avaient des QR codes billets, et les trottoirs réservés à ceux qui n'en avaient pas, des grilles, des grandes palissades partout, parce que c'est pas pour la sécurité, c'est parce qu'il y a des droits.
Ah ouais.
Et que les gens ils payent pour voir les choses. Donc fallait pas que vous puissiez voir le beach volley de l'extérieur, comprenez, parce que c'était sur la place de la Concorde.
Ah ouais.
Donc fallait pas, parce que sinon c'est
privé,
pas la place de la Concorde,
payer.
C'était au pied de la Tour Eiffel, le
oui,
beach volley. Donc du coup l'idée c'était de dire comme les gens ont payé, donc il y avait des palissades de 4-5 mètres d'eau. Donc en fait ça donnait une impression comment dire, de ville en guerre, mais sans la guerre. Alors tant mieux, hein, quelque part qu'il n'y ait pas la guerre, mais c'était assez étrange quand même.
Ouais.
Voilà, vraiment. Et il y avait des trucs qui s'appelaient les checkpoints. Et il y avait des grandes flèches avec marqué checkpoint, numéro, machin. Et là, je me suis dit, mais quand même, quoi, ils ont pu trouver.
Horrible.
Je sais, genre mettre entrée, tu vois, un truc un peu. Non, checkpoint, quoi, c'est bizarre.
Ouais.
Voilà.
Formidable. Et je ne parle même pas, hein, non plus de la pollution d'un tel événement mondial, hein, ce qu'on peut rappeler régulièrement dans les événements mondiaux comme ça, où en fait, tout le monde se déplace et pour rien.
Non, mais ce qui pollue, c'est les pauvres.
Ah oui, c'est vrai.
Les riches, eux, ils ne polluent pas, ils participent à l'économie.
C'est ça.
Pourrait peut-être être un peu cohérent.
C'est vrai.
J'ironise.
Je parle pas non plus, hein, de la compétition nauséabonde, hein, qu'elle érige, qu'un tel événement érige en modèle, ou encore le patriotisme qui en découle. Hein.
Voire le nationalisme.
Parce que, oui, je voulais pas aller jusque-là, mais.
Oh, bah, vu le nombre de Marseillaises beuglées, bon, je peux te dire qu'on parlait
c'est
de
vrai.
Nationalisme. Hein.
Et puis c'était beau, quoi. Le nous, on a gagné. Nous, la France. Enfin, bon, bref. Non, c'était absolument horrible. Enfin, bref. Et puis. Il y a eu la cérémonie d'ouverture. Un peu, vous vous souvenez dans Men in Black, il fallait regarder la lumière et d'un coup tu te souvenais de plus de rien. Et ben là c'est un petit peu le même effet. C'était une cérémonie d'ouverture Men in Black, quoi. Donc hein, les réacs, les fachos, souvent croyants, ont été jusqu'à parler de décadence. Certains et certaines ont même organisé des cérémonies religieuses pour que leur dieu reprenne tout ça en main. Or bon, bah ça, on est habitué, hein, à ce que, bah voilà. Et à l'opposé, hein, des réacs et des cathos fachos, il y a eu l'enthousiasme général, et cela jusqu'aux militants les plus aguerris. Et c'est peut-être un petit peu plus à eux que j'ai envie de m'adresser ce soir, même si vous prendrez bien ce que vous voudrez de ce sujet. Les mêmes donc, hein, ces militants aguerris qui pouvaient avoir une capacité de critique, bah ont été là, absorbés par le spectacle que les JO et l'État français ont offert. Et gare à celui ou celle qui pouvait apporter critique sur cela. Hein, on était classés par les seconds, donc les militants aguerris, dans le camp des premiers, donc des réacs fachos, ça fait toujours plaisir. Et je vous disais donc, enfin hein, non, je vous l'ai pas dit, mais c'est vraiment une perte de sens critique et de tout sens, en fait, on aurait cru, quoi. Mmh. Vraiment, on a l'impression que plus rien n'était connecté, que la raison n'était plus du tout à l'ordre du jour et que, en fait, on était dans un engouement très particulier.
Ben, ce qui était étonnant, c'est que, je vais dire ça avec mes mots, mais quand j'avais lu il y a des années de ça la Société du spectacle de Guy Debord, j'avoue que j'avais pas forcément compris tout ce que Guy Debord disait, parce que bon, Guy Debord c'est un peu ardu, hein, faut quand même dire ce qu'il est. Et en fait, il y a un moment où il parle justement d'une forme de suspension de la raison par le spectacle, et je voyais pas vraiment parce que moi je voyais le spectacle peut-être un peu bêtement, je le dis sincèrement, dans le cinéma, le théâtre, ouais, tout ça et tout.
Dans tout divertissement.
Voilà, et je me disais, bon, quand même, une suspension comme ça de l'esprit critique et de la raison, je sais pas, d'un seul coup majoritaire, ça me paraissait difficile à atteindre. Et puis, ben, là,
et puis,
là je dois bien avouer que je me suis rappelé de Guy Debord et j'ai dit, bah, en fait,
T'as mieux compris.
Bah, en fait, c'est ça qu'il voulait dire. Voilà, ouais. C'est le moment. En fait, tout d'un seul coup, il reste une ultra minorité de gens qui continuent à avoir un pas de recul, ou je sais pas comment dire, ou l'envie quand même de ne pas adhérer à ce truc-là, ou pour des raisons diverses, hein. Je veux dire que ce soit parce que ça heurte leurs convictions, là tu parlais des fachos, soit parce que d'un autre côté, il y a une critique haute qui peut se mettre en place, de dire, non mais attendez, oubliez pas ce que tu rappelais, tout ce qu'il y a eu pour qu'on en arrive là. Et en fait, eh ben non. Il y avait une sorte d'interdiction de la critique. Mmh. Et en fait, oui, je me suis dit, bah oui, c'est vraiment ça dont il parlait. Et j'avoue que ça m'a un peu fait froid dans le dos. Parce que je me suis dit, bah voilà, j'aurais pas cru le voir un jour. Je sais ce que je veux dire. Voilà.
Si...
Mais je l'avais vu déjà un peu en 98 avec la Coupe du Monde.
Oui, ce que j'allais dire. C'est pas non plus le premier événement.
Non,
mais là,
ça a pris une ampleur qui m'a vraiment étonné.
Ouais. Voilà. Alors, et quelle cérémonie d'ouverture, justement, hein? Alors, on a eu une Marie-Antoinette, hein, décapitée qui chantait Ah, ça ira, ça ira. Alors, évidemment, hein, les réacs et les fachos ont crié leur dégoût et leur colère. Les pauvres, ils sont si fragiles. Et la majorité, elle, bah, elle était rassurée, finalement, dans la soi-disant prédisposition révolutionnaire du bon peuple français. Bon, le même peuple français qui élit son roi tous les 5 ans, puis retourne dormir. Oui, ce sont là les joies de la délégation de pouvoir, hein. On vote, on se rendort et on se réveille 5 ans après. Les mêmes qui dénoncent les plus radicaux aussi, hein, qui défoncent une banque, une assurance ou une grande surface quand il y a des mouvements sociaux. Bref, le roman national et la réalité de l'autre côté. Des choses très distinctes. Il y a aussi eu, hein, la récupération par l'État français d'une certaine anarchiste, une certaine Louise Michel. Hein, anarchiste que le gentil État français avait envoyé au bagne en Nouvelle-Calédonie. Ah, tiens.
La Nouvelle-Calédonie.
Nouvelle-Calédonie. Vous savez ce territoire que l'État français considère toujours comme une colonie où il tue... Mais bon, on en parlera après les JO. Enfin, si on a le temps... Enfin bon, et puis si les résultats sont pas super, bon, là, peut-être, on reviendra à la raison et à la critique et tout ça. Pour l'instant, on laisse ça un petit peu en suspens, hein. Enfin bref, cet État, donc, hein, que tout anarchiste souhaite voir tomber parce qu'il est autoritaire par essence. Eh ben il l'a récupéré. L'État, il se refuse rien.
Ah, il a peur de rien.
Mais il a peur de rien. Et là, Louise Michel, hein, justement, qui disait « C'est que le pouvoir est maudit et c'est pour cela que je suis anarchiste ». Comment vous dire, État, pouvoir, anarchie, il y a des trucs qui sont vraiment antinomiques et que l'État arrive toujours magistralement à relier, ce qui est assez fou en fait.
Mmh. Et pardon, je me permets, mais pas oublier aussi que Louise Michel est morte dans l'indigence, parce que l'État français l'a couverte, bah, l'empêchait de travailler tout simplement, qu'elle ait été surveillée jusqu'à sa mort quasiment par des policiers, tout le temps. Voilà, et qu'on l'a mis en état de surveillance permanent. Donc c'est très mignon de l'avoir joliment statufié et de sur une Marseillaise. Mmh. Je pense qu'il faut se rendre compte de l'abject qui est derrière cette image, de cette hymne guerrier qu'est la Marseillaise, d'un État triomphant et colonialiste qu'elle a combattu toute sa vie, et qui vient la récupérer pour dire « Ah, regardez, on l'a mis dans l'ouverture des JO ». Je pense qu'à un moment, là, le fait que ça ne soit pas critiqué plus que ce que ça ne l'est, ça indique quand même un degré de perte de repères qui est inquiétant.
C'est ça. Ouais. Et justement, parce que des anards de se féliciter de cette mise en avant de Louise Michel sans s'apercevoir de la récupération de l'État, eh ben ça fait mal, hein. Vraiment, on est à se dire oh, il faut rallumer le bouton on là du cerveau parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc l'État récupérateur, hein, n'est pas un contresens près. Si en plus ça peut tuer dans l'œuf tout le pan révolutionnaire que porte l'anarchie, bah c'est tout bénef pour lui en fait, hein, ce gentil État.
Parce qu'il cherche à nous faire croire, ce qui est terrible, c'est qu'ils nous disent elle a participé à la construction de la 5ème République. C'est ça que ça veut dire concrètement. Ce qui est une aberration totale. Mais d'ailleurs, est une aberration même de dire qu'elle aurait participé à la construction de la République elle-même.
Ah bah,
parce qu'elle l'a combattue et elle a été combattue par la République. Et voilà, donc moi je vous le dis.
Pas au tout début de sa vie.
Non,
mais.
Après la Kanaki, elle est revenue un petit peu vénère.
La révolution. La
commune. Il y a eu la commune et en partant de la commune sur le bateau qui l'emmenait, elle a croisé des anarchistes et elle a dit mais en fait je suis anar et ouais. Voilà et ben c'est juste imaginer à quel point c'est un degré de récup Mais sans nom. Et ce qui est dingue, c'est que les mêmes qui iraient gueuler, parce que une pub pour de la sécurité a repris le Bella Ciao en disant c'est dégueulasse, machin et tout, sont pas foutus de voir que là, on est à très grande échelle dans le même ordre d'idée. Voilà.
C'est ça. Alors, compagnons, compagnonnes, anarchistes, hein, j'espère que vous vous réveillerez un jour, parce que là, en fait, vous n'avez fait que valider cette récupération par l'État. Vous laissez finalement l'État folkloriser l'anarchie pour mieux la tuer. Alors je sais bien, on n'est pas demain dans une situation d'anarchie, mais je crois qu'il ne faut jamais laisser une chance à notre ennemi, dont l'État en fait partie, de pouvoir s'approprier des choses aussi facilement. En même temps, il y a déjà des anarches qui avaient participé à des jolies petites statues de Louise Michel mises en place par la mairie de Paris. Alors bon, on n'est plus à ça près. En même temps, la maire de Paris est une petite fille d'ancien anarchiste espagnol. Républicain.
Ah, tu veux dire que. Récris pas son histoire, Hidalgo. Il n'était pas anarch, son père.
Ah non, mais j'en sais rien. Moi, j'essaie de mettre des choses en lien, quoi. Enfin, bref. Autre fait, hein, lors de la cérémonie qui a satisfait trop de personnes, le tableau festivité. Alors, si on peut être plus qu'heureux de voir les fachos et les réacs. Encore une fois, très souvent religieux, en PLS, parce qu'il et elle ont vu une copie de la scène, doit-on pour autant faire abstraction de toute critique qui n'est pas réac et religieuse? C'est une question que je me pose. Hein. Nombre de personnes se sont félicitées de la visibilité de personnes LGBTI, mais n'est-ce pas, là encore, un bon moyen pour l'État de se faire passer pour hyper open et tolérant? Le même État, hein, dont le premier représentant, qui s'appelle, je crois, un président de la République, en campagne, peu de temps avant ces mêmes JO, avait dénoncé un point du programme du Nouveau Front Populaire en déclarant à une personne qu'il contenait, je le cite, hein, des choses complètement ubuesques, comme d'aller changer de sexe en mairie. Ouais, ouais. Alors, j'ai beau ne pas aimer.
On va peut-être lui rappeler qu'on change pas de
fond. Non, oui, ça. Ça me semble compliqué. Oui, alors, j'ai beau ne pas aimer le NFP, tout comme Macron, parce que je pense encore une fois qu'aucun de cela ne sera la solution à nos problèmes. Ils sont plutôt une partie du problème, en fait. Mais ce dernier, en déclarant cela, stigmatise ceux et celles qui pourraient être amenés à faire leur changement de genre en mairie. Et ça, c'est plus que problématique.
Oui, ça s'appelle de la haine transphobe.
C'est exactement ça, en fait. Mais vous avez raison, hein. Soyez satisfaits d'avoir quelques dragues et LGBTI dans les cérémonies marketing. Vraiment, hein.
Sous l'égide d'LVMH.
Sous l'égide d'LVMH.
Parce que c'est quand même LVMH qui a payé la cérémonie d'ouverture.
Attends. Hein, notre réalité en France est tellement idéale quand on est LGBTI. Non? Ah non? Ah ouais, on s'est peut-être fait berner. Enfin, vous êtes peut-être fait berner alors. Hein. Là encore, le grand écart entre discours, image et réalité. Et d'ailleurs, je me disais, faut croire que le pinkwashing, en fait, il n'existe qu'ailleurs. Pas en France, enfin. Hein, sinon, nos militants de la mort qui tue, tellement inconsistants, l'auraient dénoncé. Ah, à moins que ces mêmes militants ont du mal à voir la merde à leurs pieds, en fait. Hein, c'est toujours plus facile de voir la merde quand elle est loin. Puis c'est plus facile quand l'État s'appelle par exemple Israël. Oh tiens, ouf. Par contre la France, non, on peut pas quand même. Elle a, quand même, vous étiez sur les bancs de ces universités quand même, ça serait mal de tuer le maître. Enfin bref, mais grâce à vous, l'État pourra se faire passer pour LGBTI friendly. L'État vous remercie de l'avoir aidé à écrire une nouvelle page de son roman national. Merci amis anarchistes, rebelles, LGBTI, etc. qui n'ont fait que plier face à tout ça et donc participer à ce roman national. Bref, il y aurait encore beaucoup à dire, à écrire sur cette séquence qu'on vient de vivre, hein, tant elle démontre comment du pain et des jeux est toujours tristement d'actualité. Hein. Comment tout cela fait disparaître tout esprit critique au profit d'une unité nationale qui est rarement le terreau de la liberté individuelle et collective. Hein. Alors ni Dieu ni maître, évidemment, mais aussi ni État ni patron. Et ni JO, ni Coupe du Monde, ni Championnat de Ligue 1, et toutes ces merdes-là. Voilà, c'était mon petit billet de retour, en espérant qu'il vous a fait plaisir.
Hein. Oui, alors moi je voudrais corriger quand même quelque chose. je trouve quand même que tu sous-estimes certaines choses, et que tu dis des choses qui sont fausses. Ce n'est pas la Ligue 1, c'est la Ligue 1 McDonald's.
Ah oui, c'est vrai.
Il faudrait se rappeler quand même qu'elle s'appelle comme ça maintenant.
C'est vrai.
Hein, Ligue 1 McDonald's, Ligue 2 Domino's. C'était voilà, donc c'était mon petit. Non, alors évidemment, je suis d'accord avec toi. Et non, mais.
Non, donc, plus que tu sois d'accord avec les autres. Non. Tu changes d'émission.
Mais non, mais je veux dire, non, mais en fait, ça a été pour moi. Je vais le dire, mais à titre très personnel, c'était un pur moment d'écœurement cette période-là. Et quand je parle d'écœurement, c'est vraiment de l'écœurement au sens où, d'abord, ça a caché plein de trucs parce qu'il s'est passé plein de choses hein, pendant cette période des JO. Ça a duré 3 semaines. Pendant 3 semaines, on a l'impression qu'il se passait rien dans le monde. Je vous rappelle quand même. Je vous rappelle quand même que pendant ces 3 semaines, les bombardements à Gaza n'ont jamais été aussi importants que pendant ces 3 semaines, et c'était volontaire parce que tout le monde avait les yeux sur les JO. Que pendant ces 3 semaines, au Soudan, il y a eu des actions au Darfour qui ont été menées d'épuration ethnique. Ça a été fait pendant les JO volontairement parce qu'ils savaient très bien que les Occidentaux avaient tous les regards sur les JO et sur Paris. Et sur Paris, oui, oui, mon ami, tout ça. Hein, il suffit de voilà, parce que je fais ça parce que les Américains étaient tous très contents de parler français, c'était très bien. Non, mais voilà, en fait, il y a un moment donné, il faut se rendre compte que ce grand spectacle, il n'est pas anodin, il n'est pas fait pour rien, qu'il a servi aussi à cacher sous le tapis aussi ce qui se passait en Kanaky, où je vous rappelle quand même qu'il y a encore eu un mort il y a une semaine et demie de ça, tué soi-disant, parce qu'il aurait attaqué des policiers, alors que même les vidéos prouvent que la personne était a priori juste debout. Donc, a priori, d'être debout devant des policiers, c'est attaquer des policiers. Donc, on a un petit problème. Où on a quand même des rapporteurs de l'ONU qui montrent du doigt la France en disant qu'elle applique une politique coloniale en Kanaky et qu'elle applique une forme de traitement des populations pouvant s'apparenter à du séparatisme. Voilà, et le séparatisme, ça amène à l'apartheid, parce que c'est ça l'idée qui est derrière. Et ben en fait, là... pas un mot, personne n'en parle, voilà, c'est tout sous le tapis pendant les JO. C'est écœurant. En fait, à un moment donné, c'est écœurant. Alors, je sais, j'ai entendu hein, des gens, j'ai eu des discussions pendant cette période-là, des gens qui me disaient, oui, mais toi, par exemple, t'aimes bien tel film, telle saga, tel machin. Je crois pas encore qu'à la sortie d'un nouveau Star Wars ou d'un nouveau film ou autre, on ait pendant 3 semaines parlé que de ça,
H24,
rien mis dans les trucs, fait des émissions spéciales, voilà. Non, c'est pas vrai. En fait, en réalité, les JO, c'est très spécifique et ça vient tous les 4 ans. C'est volontaire. C'est une période d'annulation totale de la pensée, en fait.
Ça revient même tous les 2 ans.
Ouais, pourquoi tous les 2 ans ?
Parce que tu as les JO d'été.
Les JO d'hiver, ouais.
2 ans après, tu as les JO d'hiver.
Ouais,
2 ans d'après, tu retournes les JO d'été,
J'avais oublié les JO d'hiver, parce que je suis tellement pas à ces trucs-là. Mais en fait, voilà. Et on se rend compte, là, en plus, comme en plus c'était en France, on voit à quel point ça éteint. Ça éteint totalement tout ce qui s'est passé. On a, là je vais faire de la politique politicienne, je me contrefous de la 5ème République et de tout ça. Mais vraiment. Par contre, on a un président de la République qui là est entièrement en dehors des clous. C'est-à-dire le mec, il a décrété, je te nomme pas de Premier ministre, je crée un statut de ministre démissionnaire qui existe nulle part. Alors, il dirige sans diriger tout en dirigeant, hein, parce qu'ils font quand même le budget, ils font des lois d'exception, ils font tout ça. Tout va bien, ils font des décrets pour autoriser la vidéosurveillance avec reconnaissance faciale. Vas-y, tout va bien, ils sont démissionnaires. Hein, mais voilà. Bref, donc on voit qu'on est dans une absurdité totale. Mais vraiment, je voudrais juste à un moment donné que les gens qui nous écoutent et que les Français en général qui peuvent entendre ce que je suis en train de dire, se rendent compte que dans un pays extrêmement autoritaire comme l'Indonésie, quand un président a essayé de faire du népotisme pour pouvoir placer ses enfants à sa succession, ils sont descendus dans la rue en face de l'armée pour empêcher la prise, le peu de démocratie qui leur restait en Indonésie. Et renseignez-vous sur ce qu'est le régime en Indonésie et comment ça fonctionne, et renseignez-vous du peu de démocratie qu'ils ont sauvé, parce qu'ils n'ont pas sauvé une démocratie libérale comme on peut l'avoir aux États-Unis, en France ou ailleurs. En France, on a un président, on a truc d'ouverture avec « Ah, ça ira, on est un peu pré-révolutionnaire, machin ». Pardon, mais tout ça, c'est du flan. On devrait avoir bloqué les JO, on devrait avoir empêché les JO de se tenir, juste pour dire à Macron, en fait, tu ne peux pas prendre le pouvoir dans tes mains seul. Et depuis 8 semaines, il n'y a rien qui se passe. Mmh. Donc, va falloir un peu arrêter avec les images d'Épinal, de peuple révolutionnaire, parce que c'est faux. Mmh. Voilà. Et surtout, moi, je trouve que ce qui est terrible, c'est que ces JO ont démontré une chose qui, moi, me faisait peur. C'est la faiblesse, aujourd'hui, et le niveau extrêmement bas des forces progressistes et des forces de lutte en France. Mmh. Parce que c'est ça, le cœur du problème. Quand je vois qu'il y a des gens qui ont condamné les comment on appelle ça, les sabotages qui ont été faits sur les trains. On peut penser ce qu'on veut du sabotage, mais renseignez-vous, dans l'histoire, ça a toujours existé.
Ah, j'ai oublié de les citer, tu vois.
Voilà, mais dans les luttes sociales, le sabotage, ça a toujours fait partie des luttes sociales. Mmh. Bah désolé, ouais, en fait, les luttes sociales, ça emmerde du monde. Bah c'est comme ça, parce qu'on peut pas faire des luttes sociales sans enquiquiner des gens. Bah pardon, mais c'est comme ça. Oui, mais une révolution, ça fait du bruit, ça fait des morts.
Et bon, ce sabotage n'a tué personne. Hein.
Oui, non mais voilà. Non mais je dis ça, une révolution, ça fait du bruit, ça fait des morts, parce que c'est une phrase qui est dans un film que j'ai trouvé très drôle, où quelqu'un dit à quelqu'un qui dit oui, mais quand même, bah oui, mais à un moment donné, quand on fait une révolution, voilà, on fait une révolution, quoi. Voilà. Alors, je parle même pas de révolution, là, je parle vraiment de lutte. On a des gens qui ont fait un acte, alors on peut en penser ce qu'on veut, je veux dire, après, c'est bien, c'est pas bien, mais c'est pas le problème, ils ont essayé un truc. Voilà. Alors, ils ont essayé un truc, ils ont été condamnés, mais par tout le monde. Et le silence absolu de l'extrême gauche, des anards, de tout ça, qui ne sont pas venus en soutien de ces gens, ou au moins dire, on n'aurait pas fait comme ça, mais c'est légitime de vouloir s'en prendre au JO, ben ça fait mal, parce que ça veut dire à quel point on est devenu apathique, et à quel point on est devenu silencieux. Et ça, moi, ça me pose un réel problème. Et je renvoie ça à toutes les formes politiques. Alors par contre, si, pour nous dire qu'il faut nous mettre une énarque qui parle comme une DRH, comme première ministre, que ça va nous sauver le monde et tout, là, il y a du monde. Et franchement, je n'y crois pas deux minutes, hein, vos conneries, là. Donc, je vous le dis, elle va arriver, elle va se faire défoncer, elle va faire comme Hollande, hein, elle sera de gauche, mais elle fera des lois de droite, et puis tout le monde dira, oh, mais encore une fois, t'es trahi. Bref, pardon, je m'énerve. Mais à un moment donné, c'est ça que les JO ont montré. C'est notre faiblesse. Oui. Et si on ne regarde pas en face le fait que les JO ont montré notre faiblesse, on n'est pas prêt de relever la tête.
Ah, mais je crois qu'on n'est pas prêt à relever. Hein.
Oui, mais toi, t'es le pessimiste, moi, je suis optimiste. Moi, je gueule pour que les gens relèvent la tête. Toi, tu dis, bon, ouais, de toute façon, c'est foutu.
Ah non, je dis pas que de toute façon, c'est foutu, mais c'est un constat aussi. Je veux dire, c'est un constat. On va pas partir là-dessus, mais nos milieux militants sont majoritairement des classes moyennes qui, de toute façon, n'ont aucun intérêt à ce que le monde change parce qu'ils sont bien lotis. Tant que les pauvres ne se soulèveront pas, il ne se passera rien. Oui. Et le jour même où les pauvres se soulèveront, ils risquent de même de retrouver sur leur route certains de ceux qui pensaient être leurs compagnons. Parce que d'un coup, ces gens-là vont penser qu'ils vont perdre des choses. Donc, le bon peuple, je crois que c'est surtout.
Non, moi, je ne fais pas appel au bon peuple, mais je fais appel à tous les gens qui se réclament de quelque chose, mais qui ne l'appliquent pas.
Mais ça, c'est un truc qu'on a souvent parlé. Il faut remettre les idées clairement à jour et se repenser ce qu'on pense, en fait. Se demander à quoi ça correspond ce qu'on pense, en fait. Parce que ça ressemble beaucoup à la social-démocratie et c'est ce qu'on vit. Donc il n'y a rien besoin de changer si ça vous plaît. Et ne jouez donc pas les révolutionnaires. Enfin bref, c'était un petit retour. Allez, en forme, on y va. Et puis, allez, on danse un petit peu. C'est parti. No,
pêchant la sirène. Et après on est parti en pêchant la sirène. Il y en a un que j'oublie toujours, c'est Saddam Hussein. Il y en a un que j'oublie toujours, c'est Saddam Hussein. Celui-là nous pompe de l'air comme Jean-Marie Le Pen. Celui-là nous pompe de l'air comme Jean-Marie Le Pen. On s'est roulé en cinq feuilles avec du pollen.
La wesh, c'était Matt Mata avec le titre Les Moutons. Oui, un très vieux titre, mais qui fait toujours autant de bien. Alors, vous êtes toujours à l'écoute, évidemment, de Radio Canu, et c'est la causerie depuis 22h et jusqu'à 23h. Et donc, c'est Fab qui prend la suite, et lui, oui. Il va nous parler des coups de chaud.
Ouais, un petit coup de chaud des mers et des océans. Ouais, c'est ça, un petit coup de chaud.
Eh ben, allez, je crois que c'est à toi.
Alors, figurez-vous qu'en ce moment, on vit une canicule des eaux. Alors oui, je sais, on reprend là, la causerie, vous vous dites, Fab, il va encore nous miner le moral avec des infos sur le climat. Eh bien, vous avez raison, hein, donc restez bien avec nous quand même. Donc, si vous voulez entendre autre chose, sinon, changez de radio hein, pour les minutes qui viennent, puis vous revenez aux alentours de 22h50. Hein. Voilà, parce que pendant la fameuse trêve olympique dont on parlait juste avant, on peut dire que des infos pourtant inquiétantes hein, et impactantes, d'ailleurs, pour l'avenir, sont un peu passées sous les radars.
Il y avait JO, non ?
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Donc, une en particulier, hein, dont je vais parler un peu plus longuement, le réchauffement des mers et des océans. Alors, si on a vécu, hein, comme le dit le programme Copernicus, alors le programme Copernicus, il a pour mission d'observer le dérèglement climatique et ses effets sur la planète. C'est un programme pluridisciplinaire et avec plein de pays dedans, parce que c'est un programme européen. Sans doute, pour le programme Copernicus, je vais y arriver, on est l'année la plus chaude jamais enregistrée. Hein, voilà, tout simplement. Alors oui, cherchez pas de référentiel, c'est la plus chaude jamais enregistrée. C'est-à-dire avant l'ère industrielle, voilà, c'est pas, depuis qu'on prend des mesures, en gros. Voilà, tout simplement. Et que les statistiques, hein, quand même, sur la mortalité européenne, parce que vous savez que l'Union européenne, elle est obligée de faire des statistiques sur la mortalité, c'est dans les traités, elle souligne hein, que les canicules tuent environ 175 000 personnes par an. Hein, voilà, et que ce chiffre est en augmentation parce que les canicules aussi, donc forcément ça va avec. Oui, 175 000 personnes, c'est énorme. Hein. Oui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à l'échelle européenne, ça fait du monde quand même. Je voulais quand même mettre en lumière ce soir ce que cela implique sur les océans et les mers, dont nous dépendons un tout petit peu pour vivre hein, quand même globalement. Je vous rappelle que les océans et les mers, ils fournissent quand même 50% de l'oxygène qu'on respire, voilà, et ils captent 30% du CO2 qu'on émet. Donc, on va dire qu'ils sont plutôt cool, alors les océans et les mers.
Même voilà. S'ils n'organisent pas de Jeux Olympiques.
Ouais, enfin, même. Voilà, souvent, et même si, en fait, ils s'en foutent parce qu'ils n'ont pas d'âme, ni d'esprit, ni quoi que ce soit. Mais en tout cas, on peut dire qu'ils nous servent. Mm. Voilà, hein, que sans eux, on est dans la merde. Et donc, on a pu voir hein, dans les JT, entre deux records d'athlètes des JO, quand même, la joie des vacanciers de trouver une eau chaude, pas loin de 28 degrés quand même, hein, dans le sud, mais aussi en Bretagne, où elle a été en moyenne de 22 degrés. Hein, voilà, ce qui est quand même plutôt élevé pour la Bretagne. Or, pour la Méditerranée, ça signifie quand même que nous sommes 7 degrés au-dessus des normales. Hein. Oui, 7 degrés au-dessus des normales, parce que la normale moyenne étant de 21 degrés. Oui, alors, juste parce que j'ai vu des complotistes qui disaient « Mais non, moi j'ai déjà vu sur la plage elle était annoncée à 27. Hein. » Oui, alors mon petit ami, je te rappelle que la température de l'eau, quand on la prend pour faire la moyenne, elle n'est pas prise au bord de l'eau. Mmh. Elle est prise à plus de 5 mètres du bord. Oui, parce que l'idée, ce n'est pas de prendre ce qui stagne, hein, c'est de prendre ce qui est de l'eau. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on avait 28 degrés, mais à 5 mètres du bord. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, c'est là où vous commencez, quand vous nagez, à dire « Ouh, elle est fraîche, je reviens », vous voyez, c'est ce moment-là, normalement. Mais là, non, ça n'allait pas. Voilà. Donc, pour la Bretagne, on est quand même aussi à 4 degrés quand même au-dessus des moyennes normales. Bah, c'est quand même pas mal, hein, globalement. Et vous pouvez penser pensez hein, que cela n'aurait donc aucun impact sur la vie de ces espaces? Vraiment, vous vous dites tout va bien sur la faune et la flore? Vraiment, vraiment, vous pensez ça? Pourtant, vous, nous, moi, on sent quand même bien quand il fait 35 degrés qu'on est un peu moins bien qu'à 23. Moi, j'ai remarqué. Enfin, je sais pas, mais souvent, je me dis, tiens, il fait chaud quand même. Là, voilà. Et ben, ça fonctionne pareil, en fait, hein, dans l'eau. Hein. C'est quand l'eau, elle augmente, en fait, les espèces, elles, c'est un peu comme vous dehors. Quoi. Ils disent, oui, il fait chaud, là, non? Voilà. En fait, en Méditerranée, on parle même d'une canicule marine, tout simplement, qui a duré quand même plus de 7 semaines et qui est toujours en cours, hein, d'ailleurs. Et pourquoi on parle de canicule marine? Parce que la température de l'eau augmente à plus de 15 mètres sous la surface. C'est-à-dire qu'en fait, sur une distance profondeur de 15 mètres, merci, je vais perdre le mot, sur une profondeur de 15 mètres, en fait, vous avez une augmentation des températures. Alors, évidemment, vous n'avez pas 28 degrés à 15 mètres, mais vous avez une augmentation qu'on peut mesurer par rapport à ce que ça devrait être. Et cela, eh ben, ça a un effet terrible sur la faune. Ben ouais, parce que des espèces, elles meurent ou elles migrent, faute de pouvoir supporter la température de l'eau. Oui, parce que l'évolution, ça existe, mais l'évolution rapide, ça n'existe pas encore. Ça ne sait pas encore bien faire en un ou deux ans. Hein. Donc en effet, il faut savoir que la plupart des espèces de poissons, de crustacés et autres, plancton, tout ça, ils sont sensibles à des variations de 2 degrés sur 3 jours. 2 degrés de plus ou de moins sur 3 jours, ils le ressentent. Alors imaginez cette semaine. Voilà. Donc on a là clairement on est dans un changement majeur. Donc ainsi on a pu voir en Méditerranée arriver des espèces tropicales comme le crabe bleu qui théoriquement n'aura rien à foutre en Méditerranée mais qui est arrivé parce que bah il fait chaud donc il a dit ah bah je peux m'installer là et qui a quand même la particularité de tuer toutes les autres espèces de crabes. C'est un petit peu gênant quand même globalement mais voilà. Le poisson lapin, alors il a un nom marrant hein, le poisson lapin, ouais, parce que j'aime bien le citer. Sauf que le poisson lapin en fait au départ vous pouvez le trouver aux Antilles hein, donc ouais. Il est pas trop prévu pour être en Méditerranée. Le poisson lion hein, qui est donc quand même un poisson connu parce qu'il est très beau, vous savez, il a une crinière, il est noir et blanc, on vous le montre souvent dans les images, on dit regardez il y a le poisson lion. Bah en fait ces deux espèces sont quand même super agressives hein, le poisson lapin et le poisson lion, malgré leur nom sympathique. Et pour le poisson lion en plus il est venimeux. Donc voilà. Alors il est venimeux y compris pour des baigneurs hein, je le précise ouais. Hein, c'est-à-dire qu'on peut se piquer sur un poisson lion en se baignant. Voilà. Pas comme une vive hein, c'est pas dans le sable. Mais aussi des espèces de moules, de plancton et autres qui n'ont rien à faire en théorie là. Alors par exemple, on parle des moules parce que oui, alors amis auditeurs et auditrices, il n'y a pas qu'une seule espèce de moule. Oui. Il y a plusieurs espèces de moules. C'est comme ça. Et il faut goûter toutes les moules. Pas. Et donc, du coup... non, mais ris pas à mes mauvaises blagues. Et donc, en fait, eh ben, il y a des moules plus grosses qui sont arrivées en Méditerranée et qui n'étaient pas trop prévues. Ce problème, c'est que en fait, les moules, entre elles, ne s'aiment pas. Bah, c'est un petit peu, je m'installe et je te pousse et tu meurs.
Ouais, c'est tout un jeu, quoi.
Voilà. Et le souci, c'est que, ben, contrairement à une idée reçue aussi, toutes les moules ne sont pas comestibles. Non, alors ça, c'est valable que pour les crustacés. Et donc, du coup, en fait, il y a des espèces qui s'installent là où on fait aujourd'hui des moules comestibles, qui ne le sont pas vraiment. Ou du moins, qui sont moins bonnes, ou qui sont, ouais, je sais pas comment expliquer ça. Et donc, voilà. Donc, du coup, c'est quand même un peu le bordel. Pour être clair. Et on a aussi, en fait, des planctons qui changent. Vous savez, des micro-organismes. Ben, c'est plus les mêmes. Parce que bah il fait plus chaud, donc du coup c'est des planctons qu'on connaissait pas qui sont là. Sauf que les planctons qui étaient là avant, ils servaient de nourriture à plein d'animaux qui étaient là avant aussi, qui du coup trouvent plus leur nourriture et disent oh merde bah on va pas rester ou alors on va mourir. Vous voyez c'est un peu voilà. Donc en gros bah c'est pas la joie. Et en Bretagne sur la côte basque on a vu des requins qui se sont rapprochés des côtes. Ah ouais, parce que le requin, il y a des requins qui aiment l'eau chaude, des requins qui aiment l'eau froide. Et c'est alors pourquoi? C'est comme ça. Et il y a une particularité, il y a quelques requins qui aiment bien l'eau très chaude. Et qui se rapprochent des côtes. Voilà. Et qui viennent des fois au bord de l'eau. Alors, ça a déjà existé avant, hein. Sauf que maintenant, il y en a plus. Vous voyez? Okay. On a aussi vu des bandes de dauphins. Qui d'habitude ne passent pas là. Et qui, surtout pas en plein été. Et qui là, d'un seul coup, se sont mis à passer, là, en plein été. Pourquoi? Bah, parce que l'eau était meilleure, elle était bonne. Et qui suivaient des bancs de certains poissons qui préféraient l'eau chaude. Et qui donc, du coup, bah, on a vu des dauphins. Alors, c'est pas grave, hein, c'est joli, les enfants sont contents. Sauf qu'ils ont rien à faire là, en fait, en théorie. Donc, c'est un peu ça le problème. Enfin, ils ont rien à faire là. Puis. Mais c'est pas le normal qu'ils soient là.
C'est pas l'environnement habituel.
C'est pas là qu'ils sont d'habitude. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, du coup, on a aussi des bars, vous savez le bar c'est un poisson, oui, pas le bar en bois, le bar le poisson, qui lui en fait s'est barré. Bah lui, pour mauvais jeu de mots, mais je vais au bout de ma bonne.
Ah voilà, c'est on a la chance d'avoir une super chronique aquatique et voilà. De jeux de mots.
Et ce jeu de merde.
Non mais attends, comprenez-le, cher ami auditeur auditrice, ça fait un mois qu'il a pas pu les faire à l'antenne et là il y a lâché quoi.
Voilà, excusez-moi, il y a lâché de bandes mauvaises blagues. Et donc du coup, les bars qui se sont barrés, ils ont quitté les côtes au profit en fait d'autres espèces, mais qui sont moins comestibles. Alors du coup, ça a un impact sur l'industrie de la pêche, vous voyez aussi. Voilà. Mais aussi pas que, parce que le bar, par exemple, il était mangé par certaines autres espèces, qui elles ne le trouvent plus, vous voyez. Par exemple, les foutebassins, les oiseaux, vous voyez, les grands oiseaux, 1m80 d'envergure, tout ça. Ben, les foutebassins, en fait, eux, ils ont un léger problème, parce que les bancs de poissons se sont éloignés des lieux où ils nichent.
Okay.
Et du coup, il faut qu'ils se déplacent plus pour aller chercher les poissons pour nourrir leurs petits là où ils nichent qu'avant. Et le problème, bah, c'est que ça les épuise. Et c'est ça, c'est problématique. Donc voilà, il y a plein de... Voilà, pas très joyeux ce que je raconte, mais voilà. Donc du coup, il y a aussi la mer du Nord qui a été envahie... il y a les poulpes, qui ont envahi les océans jusqu'à la mer du Nord. Alors, je vous rappelle que le poulpe, c'était plutôt dans la Méditerranée, jusqu'à maintenant, ou dans les côtes basques. C'est pour ça qu'on mangeait du poulpe à la plancha dans les côtes basques. Oui, non, c'est pour vous vous situer, quoi.
Ok, non, je ne savais pas si tu allais nous donner une recette aussi.
Ah, si, je peux, mais je vais m'arrêter là. Mais non, mais c'est important ce que je dis parce que ce qui est étonnant, c'est que le poulpe, en fait, il n'aime pas les eaux très froides. Donc, il aime bien les eaux un peu plus chaudes. Mais surtout, ce qu'on ne s'attendait pas, c'est ce qui se déplace si vite. Donc, en fait, il a suivi les courants chauds, il est remonté et depuis 3 ans, en fait, il s'est installé en Bretagne jusqu'à la mer du Nord, tranquillou, quoi. Sauf que le poulpe, eh ben, il bouffe les crustacés. Donc c'est un peu embêtant.
Oui, en fait, c'est que sa présence, elle est parente de quelque chose.
Bah voilà, c'est surtout qu'il n'est pas censé être là, donc en fait, oui, coup, tout l'écosystème...
Donc, s'il est là, c'est à cause d'une évolution de quelque chose.
Et donc du coup, y a quand même un léger gros problème qui se profile. Sur la faune aussi, donc sur la flore, sur la faune aussi, les phytoplanctons, et je suis fatigué, les phytoplanctons et les algues auxquelles ils s'attachent, faune et flore, sont devenus plus grands. Alors ça paraît bizarre comme ça, c'est-à-dire que quand on dit ça, les gens disent « Ah bah oui, mais c'est pas grave ». Bah si, parce qu'en fait, plus vous avez des algues grandes, plus elles opacifient l'eau. Oui. C'est-à-dire que ce qui est sous l'algue, bah en fait, c'est dans le noir. Et en fait, ça a un effet sur la faune et la flore, du coup. Et c'est en fait une vraie hécatombe, parce que du coup, bah, vous avez plein de sortes de champs d'algues qui apparaissent, comme on parlait par exemple dans l'océan Atlantique des sargasses. Oui. Et voilà, bah, c'est exactement ce phénomène-là. Et en fait, le problème, bah, c'est que bah, en dessous, c'est une hécatombe, parce qu'ils n'ont plus assez de lumière, il n'y a plus assez d'oxygène, parce que l'oxygène signifie moins l'eau, et voilà. Et donc, on estime qu'il y a aussi 5 espèces d'algues spécifiques qui étaient spécifiques aux eaux de la Manche et de la mer du Nord, qui ont tout simplement disparu. Voilà, elles sont mortes et voilà. Et elles ont été remplacées par des algues plus communes dans l'océan Atlantique. Alors ça peut paraître anodin, sauf que ces algues, encore une fois, il y a tout un tas d'animaux qui en dépendaient, et donc soit ils ont migré, ces animaux, soit ils ont tout simplement disparu, ils sont morts, faute de pouvoir évoluer assez vite. Et en Méditerranée, parce que c'est la Posidonie qui inquiète. Alors, la Posidonie, c'est une plante spécifique du fond de la Méditerranée. Si vous êtes déjà allé en Méditerranée, il y a plein de zones où vous n'avez pas le droit de jeter d'encre, tout ça, ou même les bateaux n'ont pas le droit de passer, ou les moteurs sont même interdits à certains endroits pour pas arracher la Posidonie. Okay. Parce qu'en fait, c'est un des principaux vecteurs d'oxygénation de l'eau en Méditerranée. Mais elle a tendance, en fait, à brunir du fait de la chaleur de l'eau. Alors, elle meurt pas, elle brunit. Voilà. Sauf que quand elle brunit, elle fournit moins d'oxygène. Donc il y a certains spécialistes qui craignent que la Méditerranée devienne, dans certains endroits, une mer morte, si ça continue comme ça, car contrairement aux océans, elle n'a pas d'assez vastes zones d'échange pour que de nouvelles espèces s'installent, et surtout, elle n'a pas d'effet des marées et de brassage, beaucoup moins que les océans. Ouais. Bref, ça veut dire qu'en fait on est vraiment face à une catastrophe de très très grande ampleur. C'est pas juste anodin, et c'est pas juste on peut se baigner dans une eau plus chaude. Voilà. Alors soulignons que ce que nous vivons là, c'est un des pires scénarios prévus dans les études sur le climat. Et pour les scientifiques, c'est le moins facile à faire revenir en arrière. Donc autant dire qu'on est quand même dans la merde, mais pour un bon moment. C'est-à-dire que ça ne va pas se résoudre en 2 jours.
Ouais. Alors je suis encore un pessimiste, mais est-ce qu'on peut vraiment arriver à rechanger un biotope?
Ouais.
Ah ouais, on pourrait vraiment.
Ouais, mais ça va demander des efforts.
Oui, en fait, c'est ça.
Alors ouais, Justement, oui, mais pas selon la courbe qu'on a pris là, pour être très clair. Donc, vous vous en doutez, hein, ailleurs, c'est pas mieux, hein, qu'en Méditerranée. Je vous ai donné les exemples en France pour quand même que ce soit parlant. Enfin, en métropole, pardon. Partout sur le globe, hein, les espaces d'eau se réchauffent et de trop. D'ailleurs, il y a eu un très bon reportage sur Arte, qui a fait son boulot pendant les JO, qui a fait un excellent reportage sur le lac Baïkal, qui n'a jamais été aussi chaud. Sauf que le problème, c'est que, ben, il est très chaud, mais il est de plus en plus mort, hein, surtout. Ouais. C'est surtout ça qui est inquiétant. Et ça a les mêmes conséquences ailleurs, et il faut quand même se pencher sur les effets que ça va avoir sur d'autres aspects que simplement, qui est déjà énorme, la faune et la flore, parce que ça a aussi des effets ailleurs. D'abord, il y a la montée des eaux. Alors, l'eau plus chaude, hein, pour ceux qui ont fait un peu de physique, ça se dilate plus que l'eau froide. Donc, une masse d'eau plus chaude qui se dilate, ça se dilate. Bah. Et donc, le réchauffement globalisé, ça augmente la vitesse de la montée des eaux. Donc, il y a déjà plus d'eau, mais elle est plus chaude. Donc, forcément, ça monte plus vite. On apprend par exemple, hein, que l'Indonésie vient de changer sa capitale de place, car Jakarta est menacée par la montée des eaux. Et elle a donc remplacé sa capitale depuis le 17 août, hein, par Jakarta n'est plus la capitale, c'est Nusantara, qui est la capitale qui est en hauteur sur l'île de Bornéo. Parce qu'en fait, Jakarta va être recouvert au moins un tiers par les eaux d'ici 10 ans. C'est énorme, hein, quand on y réfléchit. Je vous rassure, ils ont laissé les pauvres. Je suis cynique, mais il ne faut pas oublier ça quand même. La ville de Sydney, elle annonce aussi que son fameux opéra, c'est beau l'opéra de Sydney, hein, et le quartier qui l'entoure, il est un peu menacé à très court terme par la montée des eaux, et globalement, ils se demandent s'il ne va pas falloir le détruire. Parce qu'ils ont remarqué que quand il y a des fortes marées ou qu'il y a des tempêtes, il n'y a pas que les musiciens sur scène, quoi. Donc c'est un peu embêtant. Voilà. Donc il y a plusieurs îles qui vont devoir être évacuées aussi, hein, dans le Pacifique et dans l'Atlantique, car elles risquent d'être totalement ou très largement submergées dans les années qui viennent. Elles le sont même d'ailleurs parfois lors des fortes tempêtes ou des ouragans. Et donc on a quand même plusieurs pays, parce que ce sont des pays, hein, les îles, qui aujourd'hui évacuent leur population et qui ont des plans d'évacuation jusqu'en 2035 pour vider l'île, parce que ils savent qu'ils vont plus pouvoir vivre sur cette île. Les Tonga par exemple, hein, qui ont.
Les Tonga que j'avais vu, mais effectivement j'ai le souvenir d'une île qui était, je sais pas, à 1 mètre ou 2 mètres au-dessus du niveau de la mer, et qui en fait se faisait grignoter petit à petit, et qu'en fait on se dit que là c'est presque l'impression que ça s'emballe en fait.
Ben c'est ça, c'est que ça va beaucoup plus vite que prévu. C'est-à-dire qu'en fait, pour ce que je dis souvent, hein, dans la causerie, et que je pense que je suis pas le seul à dire à la radio ou à la télé ou dans les journaux ou autres, en fait le problème c'est que les politiques prennent toujours le scénario le plus le moins pire,
oui,
en disant oui ça va aller, on a jusqu'à 2100, blablabla blablabla. Sauf que les scientifiques, ça fait des mois, enfin des années pardon, qu'ils tirent la sonnette d'alarme en disant non, c'est pas le scénario à 2100, c'est plutôt le scénario à 2070. C'est-à-dire qu'en fait il y a 30 ans d'écart, c'est demain 2070, et 2070 c'est le pire, c'est le bout du scénario, et encore après ça peut encore être pire, mais c'est le moment en fait où ils disent la bascule va arriver là, vraiment l'énorme bascule. Et donc en fait les scientifiques ils se disent en fait il faut agir maintenant parce que ça nous laisse 30 ans tout juste, hein, pour agir. Donc l'autre chose qu'on va voir et qu'on voit de plus en plus et qu'on a pu vivre d'ailleurs ces derniers temps, c'est l'augmentation des phénomènes extrêmes. Bah oui, parce que c'est les océans et les mers, hein, qui ont le plus d'impact sur la météo. Pour ceux qui n'auraient pas l'idée, mais en fait, c'est logique, c'est 71% de la surface qui est recouverte par l'eau. Hein. Donc, c'est quand même plutôt ça qui a un impact sur la météo. Et donc, plus de chaleur de surface, c'est plus d'eau qui s'évapore. C'est donc plus de cyclones, plus de typhons, plus de tempêtes, plus de coups de vent, plus de vagues déferlantes, etc., etc., etc. Et c'est ainsi que, globalement, on a plus de pluie sur certains lieux de la planète et de pluie plus forte et soudaine. La France a connu d'ailleurs plusieurs épisodes ces derniers temps, et il n'y a pas que la France, hein. Où on a vu des villes se transformer en torrents parce que ils tombaient en une nuit, ce qui doit tomber en un mois et demi, quoi. Donc voire un an. Je crois qu'il y a une île à Madère. Je crois que Madère a eu un an de pluie en une nuit, ce qui est juste surréaliste. Mais voilà. Car contrairement en fait à une idée reçue, non, une planète qui se réchauffe n'est pas un grand désert. Ça, on a l'image Mad Max, vous voyez. Mais sauf que non, en fait, c'est pas vrai. Ça peut tout à fait être une planète couverte de pluie tropicale permanente, par exemple. Et il est pas rare quand même sur la planète qu'il fasse 30 degrés et qu'il pleuve. Il y a plein d'endroits dans le monde où c'est le cas. Hein. Donc voilà. Et cela va aussi avoir des effets sur l'agriculture. D'ailleurs, cette année, la France va avoir un déficit de 60% de blé suite aux pluies, puis très forte chaleur. Parce qu'en fait, le blé, il n'est pas du tout adapté à ces grands écarts. Mais aussi sur les transports maritimes. Parce qu'il y a plus de tempêtes, donc s'il y a plus de tempêtes, c'est plus compliqué de faire passer des trucs en bateau. Hein. Mais aussi sur la pêche, parce que la migration des poissons et des bancs de poissons, je vous refais pas le coup du bar qui s'est barré. Bref, c'est un impact encore impensé sur nos vies qui se profilent, et alors que ça devrait être la première préoccupation du moment, C'est-à-dire que là, on devrait avoir un état d'urgence mondial sur, ça va pas, vous voyez, c'est, voilà. Et ben, en fait, on n'a rien. Tout est relayé en arrière-plan. Et c'est bien le cœur du problème, en fait. Nous ne pouvons pas faire comme si on avait le temps, hein, comme on dit, hein, je le redis. Nous devons même plus qu'agir maintenant, nous devons agir dans l'urgence. C'est là qu'en fait, on a un vrai changement. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le... On peut prévoir, on est dans le faut faire maintenant, mais pas dans 10 ans. Alors certes, ouais.
Non, et en même temps, ce qui est dramatique, c'est que l'État, les États, hein, parce que là, oui, encore une fois, en général, ils ont une capacité à gérer l'urgence, très autoritairement.
C'est ça, mais en fait, c'est ma crainte, moi.
Hein. En fait, je pense que c'est là où il est le plus à l'aise, en fait. Mmh. Parce que finalement, les politiciens, tant qu'il n'y a pas d'urgence, ils s'en tamponnent pas mal de nos problèmes. Ouais. Qui finalement, l'environnement, c'est notre problème commun, hein. Enfin, collectif. Si l'environnement s'emballe, on est tous dans la merde, hein, en fait. Hein, quelques coins qu'on habite sur le globe. Et en fait, ils se disent, de toute façon, quand il y aura l'urgence, ils sortiront l'armée, ils sortiront tout ça. Mmh. Et puis, autoritairement, ils
protégeront les riches.
Mais bien sûr.
Alors, donc, évidemment, hein, diminuer les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre, c'est une urgence absolue. Mais encore faut-il arrêter de montrer du doigt les mauvais trucs. Je vais donner un exemple parce que je ne l'avais pas écrit, mais je l'ai en tête et qu'il est important. On montre beaucoup l'agriculture intensive du doigt en disant ça émet du méthane. C'est vrai. Sauf que ça n'émet que 18% du méthane qui est émis dans l'atmosphère. Tout le reste, c'est l'industrie pétrolière. Voilà. Donc en fait, à un moment donné, c'est bien de diminuer la viande, tout ça et tout, sauf que vous enlevez qu'une toute petite partie du problème. Et le vrai gros parti du problème, ça va être l'industrie pétrolière. Sauf qu'on s'attaque pas à l'industrie pétrolière. Donc en fait, on a toujours ce qu'on appelle des exemples dérivatifs. Qui, je dis pas, hein, qu'il faut pas diminuer sa consommation de viande, voire devenir végétarien. Ça, je suis pas en train de dire que ça sert à rien. Je dis juste qu'en fait, il faut pas que ça cache l'arbre. C'est pas l'arbre qui doit cacher la forêt. Le problème premier du méthane aujourd'hui, on le sait, c'est 1, l'industrie pétrolière, 2, les décharges. Mmh. C'est-à-dire tout ce qu'on a laissé. Donc en fait, tant qu'on ne traite pas tout ça,
Capitalisme étant quand même beaucoup basé sur l'or noir.
C'est ça. Et on prend donc pas vraiment la route, hein, parce que sinon on aurait déjà des plans internationaux pour relocaliser les productions partout dans le monde, au lieu de faire voguer des porte-containers qui polluent et ultra-polluants. Une agriculture repensée, hein, pour éviter les fortes concentrations. Et pour éviter en fait justement l'élevage intensif. Tout ça c'est facile à faire, enfin tout ce que je vous dis là c'est pas très compliqué à mettre en place, hein. Un plan train et transport collectif gratuit. On dirait écoutez, on veut plus que vous preniez la voiture, mais on va rajouter des rails, on va rajouter des tramways, on va rajouter des bus, et par contre tout est gratos. Là vous diminuez mais drastiquement et très rapidement les émissions de CO2. Et puis on aurait un plan train pour tout ce qui est le fret. C'est-à-dire qu'on aurait moins de camions sur les routes, ce qui éviterait quand même à un moment donné qu'on balance du CO2 en permanence. Mais tout ça, on l'a pas. Donc on voit bien que voilà. Et puis on aurait surtout la fin de l'avion, et, y compris sur hors long courrier, c'est-à-dire hors traverser les océans. Et en fait, tout le reste se ferait en train. On aurait une vraie réflexion sur comment en fait on peut voyager. Parce que là, le problème en fait, c'est que vu qu'on fait rien de tout ça, on voit bien qu'en réalité, on ne change pas grand-chose. Donc en fait, mais ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Hein. C'est pas du tout mon propos. C'est pas de dire ça sert à rien ce que vous faites. Et au contraire, je pense qu'il faut faire à son échelle ce qu'on peut faire. Par contre, il va falloir s'attaquer au vrai problème aussi à un moment donné. En fait, on stagne collectivement et on va vers le pire. C'est ça qui est le problématique. On peut continuer, hein, à faire baisser le CO2 et de gaz à effet de serre, mais la baisse des temps de température, dans tous les cas, elle prendra des dizaines d'années. C'est ce qu'il faut comprendre, en fait. C'est-à-dire que même si on venait à CO2 zéro demain, en fait, le temps que la planète elle absorbe tout ce qu'on a balancé, il faudrait 50 à 60 ans. Donc... plus on décale cette arrivée au CO2 le plus faible possible, plus on décale le moment en fait où on revient à la normale. Donc oui, on pourra revenir à la normale, comme tu demandais, mais pas tout de suite.
Oui, c'est ça.
Ça prendra des années. Donc plus on tarde donc à changer les choses, par exemple, j'ai déjà dit, je vais passer à ma feuille suivante. Et le dernier petit truc, on entend pas mal quand même de personnes dire que c'est pas si grave que cela, ça va aider à avoir plus de tourisme, machin, machin. Alors non seulement c'est une pensée à courte vue, mais en prime, c'est faux. Parce que l'eau plus chaude, par exemple en Bretagne, ou sur la côte basque, ou en Loire-Atlantique, c'est plus d'algues vertes. Parce que la pollution des sols, plus la chaleur, ça fait des algues vertes. Et les algues vertes, c'est zéro touriste. Parce que les gens, ils n'aiment pas se baigner dans les algues vertes. Donc c'est...
Et puis de toute façon, les communes ferment leurs plages.
Oui, mais elles sont obligées, c'est dangereux.
Bah oui,
donc,
oui.
Voilà. Donc c'est une vision complètement débile. C'est plus de méduses aussi. Parce que les méduses, elles ont une spécificité, elles adorent l'eau chaude. Et ouais, et elles se démultiplient.
Et on les comprend.
Oui, et elles se démultiplient très très vite. Bah oui, parce que la méduse, elle a pas de cerveau, mais elle queute. Alors ça, la méduse, elle arrête pas de se reproduire. C'est vrai en plus. Les méduses, c'est une partouze permanente de méduses. Donc en fait, bah plus vous avez d'eau chaude, plus vous avez de méduses. Et vous avez des autres animaux potentiellement toxiques qui peuvent apparaître. Puis vous avez aussi des bactéries qui peuvent apparaître du fait de l'eau chaude. Et voilà, c'est tout ce cercle-là qui se met en place. Donc croire qu'en fait ça va faire plus de tourisme comme on l'entend partout, c'est de la connerie, mais vraiment.
Ouais, mais ça finalement c'est aussi des promesses pour que personne ne bouge, parce que finalement les politicards et autres chambres des commerces, etc. vendent du rêve aux gens, disant non mais surtout, franchement ça va amener à des plus beaux jours encore. Sauf que en fait ils sont toujours en train de défendre les intérêts des privés, etc.
Et du fric.
Et du fric. Intérêts privés de quelques-uns pour sur la gueule de tous les autres en fait quoi.
Et puis juste quand même se rappeler que c'est aussi des plages qui deviennent inhabitables, parce que quand il fait 48 degrés à l'ombre, vous ne restez pas sur la plage, même sous un parasol, c'est pas possible. Et la réverbe est tellement forte qu'en fait, vous pouvez pas, c'est invivable. D'ailleurs, il suffit de regarder une chose, c'est si vous intéressez un petit peu à ces choses-là, vous allez voir les caméras de vidéosurveillance de la plage de Venice Beach en Californie, où aujourd'hui, en moyenne, au mois de juillet, il fait 45 degrés. Il n'y a personne sur la plage. Parce qu'il fait tellement chaud qu'on ne tient pas. Et vous ne tenez même pas dans l'eau parce que ça tape tellement fort. Et pourtant, Venice Beach, c'est la plage emblématique. Vous avez des surfeurs, tout ça et tout. Mais ils n'arrivent même plus à tenir. Donc, c'est ça la réalité du moment. Donc, voilà. Donc, non, même pour le tourisme, ce n'est pas une bonne nouvelle. Alors, on se rassure comme on peut, comme tu disais, Jean-Yves. Hein ? Mais autant commencer plutôt à se poser des bonnes questions et à taper sur les bonnes têtes plutôt que de continuer à se dire... qu'il suffit de trier ses déchets et autres, il faut le faire, mais ça ne sera pas suffisant.
C'est ça. On passe à la zik.
Allez.
Tu m'as dit garçon manqué. J'ai entendu fille manquante. Une fille et garçon raté, un garçon et fille absente. Garçon-fille, je pensais que c'était plié à la naissance, mais ils sont revenus à la charge au début de mon enfance. Courir, taper, grimper, ramper, casser, salir, ces garçons. Mon père le savait pas, il m'a élevé à sa façon. Il voulait juste un enfant confiant, sûr de lui. Il m'a fait faire du vélo sans petits trous et courir sous la pluie. Je le sentais fier quand je rentrais, les cheveux pleins de boue, avec des cratères rougis à la place des genoux. C'est qu'il voulait pas que je m'amuse moins, par peur de trouer mes collants et qu'une peur se surmonte moins bien quand on n'est plus enfant. Après, c'est vrai qu'au terrain vague, je jouais avec des garçons et des papas, mais je voyais surtout des mômes qui voulaient bien jouer avec moi. Alors au sport en primaire, on me mettait avec les garçons. Mais le plus faible des garçons n'allait pas chez les filles, parce que dans mon sens, ce mercato était une distinction, mais que dans l'autre, c'était traiter le garçon de fragile. C'est là que ça a commencé, les regards et les surnoms. Garçon manqué, je l'ai intégré sans trop me poser de questions, puis... L'adolescence m'a appelé frère. Camionneuse ou bien gouine, on demandait à ma mère pourquoi j'avais pas de copine. Tu m'as dit garçon manqué. J'ai entendu fille manquante. Une fille et garçon raté, un garçon et fille absente. J'ai mis du temps à comprendre pourquoi il fallait trancher. Comment le monde se répartissait en une dualité sans interstice. Fille, garçon, identité codifiée, fringues, fournitures scolaires séparées au supermarché. Aujourd'hui, j'y suis enfin. La silhouette féminine que m'avait prédit la pédiatre et promis les magazines. Fille manquant à l'appel a fini par pointer. Alors pourquoi dans tout ce que je fais, on continue à arbitrer? Je parle fort, avec une voix grave, une voix forte, c'est garçon. Sauf quand ce que je dis, c'est pas trop con. Alors là c'est bon, je suis une fille forte en affirmation. Une future femme qui devra juste adoucir son ton. J'embrasse un garçon, c'est fille. J'embrasse une fille, c'est garçon. Parce qu'une fille qui aime fille, c'est une contrefaçon. C'est une fille qui fuit par dépit, par phobie des garçons. Trop laide ou trop conne pour attirer les bons. Fille, ne te fais pas l'amour. Fille, on l'apprend. La nuance est faible, mais quand on est fille, on l'apprend. Mais fille veut pas qu'on la prenne. Fille veut qu'on la prenne en compte. Fille veut qu'on prenne la peine d'essayer de comprendre. Pourquoi fille est objet passif? Et pourquoi garçon est celui à qui dans l'intime on confie l'action, celui qui prend par derrière, sur la table ou par surprise? Pourquoi pour du plaisir mutuel garçon prend et fille est prise? Alors quand tu me dis que je suis fille, tu ne fais pas référence à mon inné chromosomique, mais bien à des tendances, traits de caractère, goût penchant, passion, facilité. Sinon tu pourrais pas me dire que je suis fille, mais pas assez. On nous calque nos désirs, nos habiletés, et on statue par avance sur nos désirabilités. On est fille de fil en aiguille, car c'est comme ça qu'on nous tisse, fille ou garçon, des attributs d'un sujet factice. Et si tu penses que mon combat n'en vaut pas la peine, moi je suis fille depuis le début, c'est à toi que ça pose problème.
Et vous êtes bien à la causerie au 102.2 sur RadioCanu.org. Et vous venez d'entendre Georges K avec Garçon manqué, fille manquante. Et voilà, belle écriture, belle musique. Je vous invite à découvrir Georges K. K.A. pour ceux qui cherchent. Et Georges sans ex, bien sûr.
C'est ce que j'allais dire. Voilà. Très bien. Et ben, je crois qu'on n'a pas de brève pour ce soir. Hein.
Moi, je peux juste conseiller aux gens.
C'était les JO et là, c'est encore les vacances dans le milieu militant. Donc, attendez septembre.
Moi, je peux. Ouais, fin septembre.
Non,
début octobre,
non pardon. Non, si, juste vite fait. C'est parce que j'ai vu passer sur les réseaux les lieux d'accueil des jeunes sans papiers mineurs, etc., qui cherchent des gens pour des aides aux devoirs, qui reprendront en septembre. Donc vraiment naviguer un peu sur les réseaux ou autres, ils ont besoin de monde. Donc si vous avez quelques heures dans la semaine à filer, ben ils et elles en seront ravis. Voilà.
Ouais, et moi sur un tout autre sujet, mais plutôt si vous avez envie de faire rêver vos enfants à la rentrée scolaire,
ou même
que,
si vous,
ou monsieur, vous avez envie d'aller passer un petit moment, un peu une parenthèse de respiration, il y a le festival Yggdrasil qui fait sa fête du Chapelier, et donc c'est autour de l'univers de Alice au Pays des Merveilles, évidemment, et donc c'est plein de trucs sympas. Il y a des concours de cosplay, il y a des concours de danse, il y a des concours de body painting, il y a des il y a aussi tout simplement des choses à voir et puis des choses à manger, très bonnes, très très bonnes. Et donc du coup bah vous pouvez y aller, c'est donc le 31 et 1er, voilà, 31 août, 1er septembre, samedi 31 et 1er septembre. Vous allez sur le site Yggdrasil Lyon Festival, vous pouvez précommander vos places, et sinon, vous pouvez passer un très bon moment là-bas, et peut-être qu'on s'y croisera. Voilà.
Et bien, très bien. Et bien, avant de se quitter, quelques rappels, évidemment, hein, on reprend les bonnes habitudes.
J'ai juste pas dit que c'était à l'hippodrome de Bron-Paris.
Voilà, pardon. C'est dit. Et bien, donc, on reprend nos habitudes. Donc, on vous rappelle, si vous voulez nous contacter, si vous êtes artiste, créateur, créatrice, militant, militante, si vous avez envie de partager un témoignage d'un parcours de vie ou autre, vous nous écrivez, c'est à lacausericanu@gmail.com. Évidemment, cette émission... Tu m'as l'air bizarre, Clara.
Okay. Il avait oublié un point com.
Oui, la première fois, c'est ce que je me suis dit là, c'est marrant, elle est plus longue l'adresse. cette émission, vous la retrouverez évidemment sur le blog de l'émission, c'est à blogs, avec un S, .radiocanu.org/lacauserie, où vous tapez tout simplement la causerie Radio Canu dans votre petit moteur de recherche, et il trouvera le blog. Et ça se passe pareil sur les plateformes de podcast et d'écoute de musique, etc. Vous tapez la causerie Radio Canu et vous devriez nous retrouver. De toute façon, il y a toujours notre petit logo avec, hein, la petite radio et ses grandes gueules qui volent avec leurs petites ailes et le point levé. Et ben, si c'est ça, c'est nous. Donc vous pouvez nous écouter un peu partout, et on est encore présent aussi sur un réseau socio-commercial, la causerie Radio Canu. Mais là, encore une fois, c'est juste pour partager. Donc si même vous avez envie de commenter, vraiment, on vous invite à le faire sur le blog, parce que ça n'appartient pas à Mark Zuckerberg ou à n'importe lequel. C'est Radio Canu, il y a pas de, on vous pique pas les infos, vos mails, vos infos, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez participer dans les commentaires ou autre, on vous invite vraiment à aller sur le blog. Et ben nous, on se donne rendez-vous dimanche prochain.
Juste dire, parce que j'avais promis de le faire, je lui ai dit je le ferai. Musique, etc. Les excellentes émissions de musique du dimanche matin
de 10h à midi
reprend la semaine prochaine. Voilà, vous sachez-le.
Oui. Voilà. Très bonne émission qui reçoit régulièrement, tout le temps, des groupes locaux, des artistes locaux, parce que c'est pas que des groupes.
Et Guillaume, le message est passé.
Et dans des genres complètement différents. Donc vraiment, si vous voulez écouter, découvrir de la scène musicale locale, c'est là qu'il faut être à l'écoute le dimanche matin de 10h à midi
tout
sur Radio Canu. Et évidemment, il y a tout plein d'autres
émissions.
Plein d'autres émissions qui sont bien aussi, mais Voilà. Elles sont toutes moins bien que la nôtre, hein, évidemment.
Oh l'enfoiré. Le reste, ça vaut pas le coup, mais nous, on est bien. Hein,
non, bien sûr que non.
Non, on pense pas ça deux minutes.
Non, du tout. Et ben voilà, nous, on se donne rendez-vous dimanche prochain, donc on sera le 1er septembre, hein, veille d'une rentrée pour les plus jeunes enfants et peut-être pour les profs. Non, c'est peut-être avant, enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, bon courage d'ici là. Et on se quitte en musique. Ah oui, merde, attends, on a changé l'ordre. Donc c'est avec...
Ce n'est pas Matmata.
Non, c'est pas Matmata, ce que j'allais dire. Je me dis, mais tiens, c'est bizarre, j'ai entendu ça. Donc c'est avec le nouveau titre du prochain album de Julien Marshall. Donc ça va être très posé. Ça va être du piano et le titre, c'est Inside 45, mais c'est en lettres romaines.
Mais c'est ça, 45.
Voilà, 45. Donc on vous souhaite une bonne écoute. On vous dit bonne nuit. À tout bientôt. Bon courage pour la semaine à venir.
Et à la semaine prochaine et des bisous.
Yes, des bisous, ciao. Et tu dis pas au revoir, toi ?
Ciao, ciao !
Oh, sur la musique !
Thank you.